Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
À l'approche du pèlerinage militaire international qui se déroulera à Lourdes du 24 au 26 mai, nous nous demandons comment aumôniers et médecins militaires prennent soin des âmes et des corps de leurs frères d'armes. En quoi consistent ces soins? Quelles sont les joies et difficultés d'un tel accompagnement? Quelle place tient la réflexion sur la mort? Réflexion partagée aujourd'hui dans Vivante Église. Prendre soin des âmes, des corps, mais aussi des esprits des militaires, c'est la mission des aumôniers et des médecins militaires. Pour nous éclairer sur leur rôle, j'ai la joie de recevoir le padré François Lamarque. Bonjour père.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes aumônier catholique de la 11e brigade parachutiste qui regroupe 8 régiments et environ 7500 parachutistes. Également en ligne avec nous depuis les studios de RCF à Toulon, le docteur Patrick Clairvoy, médecin psychiatre, anciennement au service de santé des armées et professeur agrégé de l'école du Val-de-Grâce. Bonjour général.
Bonjour.
La loi du 8 juillet 1880 formalise la présence d'une aumônerie militaire. Elle concernait en premier lieu les aumôneries catholiques et protestantes. Puis toujours au 19e siècle, cette possibilité a été étendue au judaïsme et à partir de 2006 à l'islam. Les aumôniers catholiques, appelés les soldats de Dieu, sont chargés d'accompagner humainement et spirituellement les militaires au milieu des convulsions de ce monde. En quoi consiste cet accompagnement, padré François Lamarque?
Eh bien, pour ma part, donc, comme aumônier catholique et aussi prêtre, il y a, je dirais, de trois ordres. D'abord, comme catholique, on va proposer nos services pour les sacrements aux catholiques qui en font la demande, les messes, les baptêmes et les autres sacrements. Ensuite, on est aussi aumônier, c'est-à-dire on est... ouvert à tous, tous les militaires. Moi, pour ma part, mes brebis sautent en parachute, de façon un peu particulière. Eh bien, je suis l'aumônier des régiments para dont j'ai la charge. Et je leur dis, à partir du moment où vous portez un béret rouge ou passez par la portière, ou ça peut être des marins, des aviateurs, eh bien, ce sont des personnels qui ont en face d'eux un aumônier. Ils peuvent aller lui parler. Et on est là pour ça. On est disponible pour eux.
Donc, pas besoin d'avoir été baptisé pour venir voir l'aumônier
Pas du tout. Alors, moi, j'ai autant d'aussi bonnes relations avec, que ce soit des militaires catholiques que athées, musulmans ou d'autres confessions. D'ailleurs, la confession n'apparaît pas. On est d'abord militaire. On sert la France, on sert la patrie. Et l'aumônier est là justement au service de ces soldats. Et le troisième point, après l'accompagnement, on va dire, spirituel de tous, l'accompagnement particulièrement catholique, il y a aussi le conseil et le soutien au commandement. Voilà, donc on peut être une courroie de transmission, sachant que l'aumônier, il a pas un grade hiérarchique. Faire le lien entre les soldats, on va dire la base, et le haut de la pyramide.
En fait, vous avez le grade de la personne à laquelle vous vous adressez, c'est ça?
Voilà, on dit que l'aumônier a un grade miroir, c'est-à-dire que je m'adresse à la personne qui est en face de moi avec son grade. Donc ça fait une relation, je ne suis pas leur inférieur ni leur supérieur. Du coup, ils viennent aussi assez librement. Je ne peux pas les aider dans leur avancement ou peut-être si que les soutenir. Mais ça fait une grande liberté de l'aumônier pour parler avec chacun.
Dans ce rôle de conseil au commandement qui vous est dévolu, padré François Lamarque, est-ce qu'on vous demande juste de donner un avis sur un aspect religieux ou est-ce que c'est beaucoup plus général?
Alors, il s'avère que le commandement, l'aspect religieux, ça leur échappe. Bien évidemment, on travaille pour l'armée, la République, il y a la laïcité. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on attend l'aumônier d'une certaine manière, le commandement. Le nombre de baptêmes, le nombre de mariages, pour eux, c'est pas tellement une base sur laquelle ils peuvent... D'ailleurs, l'aumônier est noté, il y a une notation, comme tout militaire, mais on attend l'aumônier parfois pour du ressenti. Comment vont les gars, un peu le moral des troupes, comment ça se passe. Et puis, donc, ça peut être une demande du commandement, mais ça peut aussi être nous-mêmes, être proactifs et dire, voilà, on peut aller voir le commandement pour leur dire deux, trois choses qui sont peut-être difficiles, où on sent qu'il y a un état d'esprit, ça peut être une amorosité, une souffrance, donc peut-être attirer sur tel point qui ont besoin, que le commandant ne voit pas et que l'aumônier peut voir, parce qu'on est quand même, moi j'essaye d'être vraiment présent avec les soldats, les paras le plus possible, hein, avec eux sur le terrain où on saute. Donc voilà, donc on peut avoir un ressenti de leur état d'esprit.
Mmh. Docteur Patrick Clairvoy, vous êtes spécialisé en psychiatrie et notamment dans le stress post-traumatique. Et vous me disiez en préparant cet entretien que lors d'une intervention médicale en opération extérieure, vous avez trouvé les raisons de votre engagement. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui, cet épisode, c'était une petite fillette qui avait reçu une balle perdue, dont je peux préciser tout de suite qu'elle ne venait pas d'une arme de la coalition, c'était une balle de Kalachnikov qui s'était logée contre la veine cave. Et on ne savait pas si la balle avait perforé. Alors la veine cave, c'est un énorme vaisseau sanguin qui est l'équivalent de l'aorte, mais sur le réseau veineux. Et on ne savait pas si la balle avait percé le vaisseau sanguin, et si en l'ayant percé, elle l'obstruait. Donc si on enlevait la balle, on révélait le trou de cette artère, de cette veine, et on laissait une hémorragie qui pouvait tuer l'enfant. Et donc c'était un moment d'une intensité exceptionnelle au bloc opératoire. Tout le monde avait suspendu son souffle, tout le monde était prêt. Et on a vécu comme un miracle le fait qu'en enlevant la balle, eh bien, on avait sauvé cette fillette. Et c'était le mot du chirurgien. Voilà ma raison d'être, ce pourquoi je me suis engagé, c'était faire ça. C'est le mot du chirurgien qui avait enlevé la balle.
Et vous vous êtes dit, c'est vraiment là que je veux être.
Alors, la raison d'être du médecin en opération, c'est apporter des soins là où il est indispensable d'être présent. Les opérations extérieures sont des lieux de danger, d'insécurité, où les soldats côtoient l'épreuve du combat, parfois celle de la blessure et de la mort. Et le médecin, c'est celui qui veut être tout prêt pour les aider, pour être immédiatement disponible à soulager les personnes dès qu'elles feraient appel à nous.
Mmh. Le père François Lamarck parlait de cette promiscuité, ou en tout cas de cette présence parmi les soldats. Est-ce que le médecin militaire a cette même présence, ce même partage des conditions de vie des militaires ?
Alors, il y a une petite exception pour le padré. C'est que le padré, on peut tout lui dire. Voilà. Le médecin, il y a toujours une petite réserve vis-à-vis du médecin. Déjà parce que le médecin est dans l'aptitude et que des fois, on redoute que le médecin mette quelqu'un inapte. Alors, le père Lamarck est padré des troupes parachutistes. L'aptitude parachutiste est indispensable pour ces jeunes. Et si jamais, à un moment donné, le médecin ose dire...
qu'on ne peut plus sauter en parachute.
C'est toute une carrière qui s'effondre, ou tout un projet de carrière qui s'effondre. Le padré, on peut tout lui dire, y compris ce qu'on ne dira pas au médecin. Voilà.
Ah oui.
Et voilà, une petite différence. Maintenant, moi, je dois dire que dans les différentes opérations extérieures que j'ai faites, j'ai côtoyé des padrés exceptionnels. J'ai côtoyé le père Lallemand en République centrafricaine. Le père Lallemand, c'est l'aumônier des troupes parachutistes. Alors, le padré Lamarck doit en avoir entendu parler.
Qui
avait sauté sur Colvézi, par exemple.
Oui. Oui.
Voilà, il avait sauté sur Colvézi. Il avait été présent dans la Finule au Liban au moment où c'était très très dur pour les forces françaises d'être présentes là-bas. Et c'était vraiment une personnalité. Et je me souviens combien chacun calculait le temps que le padré avait passé dans une concession plus que dans une autre. Et il était vraiment... C'était l'aumônier du 2e REP, l'un des régiments, enfin, oui, le régiment le plus prestigieux de l'armée française, si j'ose dire. Et... régiment étranger parachutiste, c'est la Légion étrangère, elle est à Calvi.
Oui.
Tous ceux qui y servent sont exceptionnels. Et voilà, et le père Lallemand, quand il vous raconte ça, et je dois dire que moi j'étais très jeune médecin quand je l'ai côtoyé, on a fait plusieurs sorties ensemble, et j'ai toujours apprécié la collaboration avec le padré, parce que le padré repère assez vite si quelqu'un a besoin d'une présence médicale, d'une écoute psychologique ajoutée à l'écoute spirituelle. Et parallèlement, quand je décèle chez quelqu'un que ses ressources spirituelles peuvent être soutenues dans une épreuve, je vais le dire au padré, si tu peux aller le voir, celui-là, ça serait bien. Et moi, j'ai toujours collaboré avec les padrés. Et j'ai toujours trouvé qu'on pouvait fonctionner ensemble. Il faut surtout avoir l'idée de partager nos informations et du travail ensemble. Et je dois dire que sur mes différentes OPEX, j'ai travaillé bien sûr avec des padres catholiques, mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec un pasteur qui était exceptionnel, qui était le pasteur Paul-Henri Hiraud, qui était un Polynésien. J'ai travaillé avec l'aumônier islamique, musulman, quand on était en Afghanistan. Et je dois dire que j'ai toujours trouvé que l'armée était un lieu œcuménique. Ça veut dire que celui qui pouvait porter une parole sacrée, s'il était par exemple l'aumônier catholique, mais que, comme l'a dit le père qui était
François
avec
Lamarck.
Vous, le padre, voilà François Lamarck, c'est-à-dire même quelqu'un qui est de confession musulmane, la parole sacrée il l'entend, et d'abord on a les mêmes sources, hein, voilà. Et quelque part il y a vraiment un travail ensemble et un travail pour tous, et j'ai toujours trouvé ça très appréciable.
Vous dites dans votre livre, vous venez de publier « Frères d'armes, médecins militaires en opération extérieure » aux éditions Odile Jacob. Vous dites que vous partagez finalement avec les aumôniers militaires une fraternité d'armes, et ça donne au ministère une ampleur toute particulière propre au milieu militaire, notamment dans le domaine de la confiance. Est-ce que vous voulez réagir, Père François Lamarck, sur ce sujet de la confiance ?
D'abord, merci Patrick pour ce beau témoignage sur les aumôniers militaires, ça fait vraiment plaisir. Effectivement, on est aussi héritiers nous-mêmes d'un passé prestigieux, glorieux, hein, depuis la Première Guerre mondiale, et tous ces aumôniers pour les conflits plus modernes, hein, qui ont vraiment été sur le terrain. Et d'ailleurs, auparavant, nous faisions partie, les aumôniers étaient rattachés au service de santé des armées.
Oui.
Donc ce n'est plus le cas maintenant, bon, malheureusement. Et voilà, mais effectivement, il y avait un lien, moi aussi, dans mes autres ministères, le lien avec le médecin était très important. J'allais souvent à l'antenne, justement, aussi, même pour leur demander, bah tiens, comment ça va? D'ailleurs, il y a les salles d'attente, je voyais aussi les blessés, ou ceux qui venaient se faire soigner pour un peu de bobologie. Et après, effectivement, ça m'est arrivé aussi de voir des gars, là, en rentrant ou devant les OPEX, ça n'allait pas très bien. Effectivement, ils peuvent tout dire au padré, et à un moment donné, le padré doit dire... Écoute, moi, je te conseille
d'aller te faire aider, voilà, et de consulter le médecin.
Tu aimes ta famille, tu aimes tes enfants, oui, padre. Eh bien, si tu veux vraiment les aider, va voir le médecin, parce que ça les aidera.
Et on ça ne t'aidera pas rentrer qu'à bosser.
Voilà. Et justement, dans cette confiance, bon, elle vient du fait que l'aumônier a une place, effectivement, comme disait Patrick, un peu particulière. On dit tout parce qu'on n'est pas, on fait pas partie de la hiérarchie. Voilà, on n'a pas de mesures de sanctions. Et puis, on ne peut pas non plus les propulser dans leur avancement. Donc, on reste assez...
Pas Vous êtes neutre, non ?
Oui, c'est une neutralité. Et ce qui fait que l'aumônier est abordable. Après aussi, à nous, comme dit un peu saint Paul, hein, dans les actes, dans les épîtres, l'apôtre, il doit se faire romain avec les romains, païen avec les païens, juif avec les juifs. Ben voilà, l'aumônier, moi, j'essaye d'être para avec les paras, et le fait, il y a, alors, j'ai pas un mimétisme surtout, mais le fait qu'ils me voient à côté d'eux, comme ces aumôniers qui accompagnaient, le père Lallemand notamment, ils accompagnaient les marches, même jusqu'à un âge avancé, par courage, eh bien, cette présence inspire, je pense, la confiance, et ils peuvent ouvrir aussi leur cœur.
Oui. Servir la force d'âme de ceux qui engagent leur vie pour la liberté de leurs frères, c'est la mission résumée par votre évêque aux armées, Monseigneur de Romanet. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Padre François Lamarck ?
Alors la force d'âme, il faut revenir un peu sur cette expression qui peut peut-être paraître pas désuète, mais d'abord c'est une force intérieure, une force morale, spirituelle, qui affronte l'adversité avec courage. Et cette force d'âme, je pense que c'est l'état d'esprit partagé par tous nos militaires, qu'ils soient sur les tranchées, les premières lignes, ou même du soutien, parce que pour un combattant on va dire, qui combat au contact avec l'ennemi, il faut aussi toute une logistique, un soutien, qui est parfois aussi dans l'ombre, mais c'est fait partie aussi de toute cette grande dynamique du combat pour soutenir nos frères. Il y a, voilà, les frères d'armes, c'est pas simplement un fusil, hein, il faut manger. Hein, si le soldat ne mange pas, eh ben, il faiblit, il ne peut plus combattre. Voilà, il doit être soigné. Donc, c'est la présence des médecins, même d'ailleurs sur le front, sur les premières lignes. Et le service de cette force d'âme, hein, c'est d'avoir des aumôniers, alors pour ma part comme aumônier catholique, eh bien, d'être présent pour soutenir, encourager, avoir aussi un regard de bienveillance, et puis les encourager aussi, nos soldats, nos aviateurs, nos marins, dans ce combat pour affronter l'adversité. Effectivement, comme disait le médecin, on est en opération, on est confronté à des choses difficiles, même aussi, même en France, il y a l'entraînement, on donne de sa personne, enfin on compte pas. Et moi, j'ai toujours, c'est exceptionnel. Enfin, le monde parachutiste. On évoquait le deuxième REP, le premier CP où je suis aussi à Pamiers, le chasseur parachutiste. C'est un régiment où les soldats, les paras se donnent. Enfin, et justement pour soutenir, pour les aider pour combattre l'adversité et payer de leur personne. Eh bien, l'aumônier a toute sa place. Pour moi.
Alors justement, un régiment ou une force dans laquelle on se donne, est-ce que Patrick Clairvoy, il n'y a pas un risque de trop se donner jusqu'à arriver à ce qu'on appelle le burn-out ? Quelles sont les limites et comment vous les définissez ?
Alors le burn-out, du point de vue physiologique, c'est un épuisement des ressources cérébrales que nous mobilisons face au stress. Je vais pas aller plus loin, mais en gros, le système limbique, qui est l'appareil du cerveau qui nous permet de capter le danger et de répondre immédiatement au danger, eh ben, il est mis parce qu'il a épuisé toutes les ressources énergétiques et les neurotransmetteurs que nous mobilisons, les catécholamines notamment dans le stress. Oui, mais le padre a évoqué un truc qui m'a tout de suite mis des images dans la tête. Ah. Il a dit, il faut manger. Et par exemple, alors il y a quelque chose qui est très chrétien, c'est que le repas partagé, c'est vraiment un moment où quand le padre est présent ou quand le médecin est présent, voilà, on se lâche, on mange. Et par exemple, moi qui suis intervenu dans certaines missions avec la spécialité de psychiatre, je dois dire, c'est là que le psychiatre voit les gens, entend les gens, découvre les inhibitions. Et le temps du repas partagé, c'est un temps de plaisir. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir, surtout que dans les armées, nous avons des soldats qui sont d'origine pondichérienne, réunionnaise, tahitienne. Donc, on a toutes les cuisines du monde qui sont disponibles.
Ça fait voyager.
Mais en même temps, on travaille. Pourquoi ? Parce qu'on regarde, parce qu'on écoute, parce qu'on répond. Et le temps du repas, c'est vraiment un temps de travail, et je pense pour le padre, autant que pour le médecin. Donc, oui, on peut s'épuiser, à trop donner, mais j'allais dire, on reçoit tellement. Alors là, le padre peut en parler autant que moi de son ministère, mais on reçoit tellement de l'attente des gens, d'un merci que vous lisez dans le regard, que vous entendez dans quelques mots qu'on vous dit, on reçoit tellement que ça nous porte. Et puis moi particulièrement, je dois dire aussi que je tiens un journal. J'ai toujours tenu un journal, et ce sont les extraits de ces journaux que vous avez dans le livre que vous avez eu la gentillesse de citer, là, Frères d'armes, qui sont. J'ai toujours tenu un journal, et dans le journal que j'ai tenu, j'ai toujours voulu mettre en avant ce que je voyais du courage des autres, de l'effort des autres, de la performance de nos différents personnels, de façon à ce que ces personnels, s'ils ont un jour le livre en main, disent « Ah ben oui, ils reconnaissent, ils entendent que l'on valide tout l'effort qu'ils ont donné et le sacrifice qu'ils ont fait. » Le pire pour un soldat, c'est qu'on oublie ce qu'il a donné pour servir son pays.
Et pourtant, vous dites dans votre, pardon de vous couper, Patrick Clairvoy, oui, vous dites dans votre ouvrage, sur un théâtre d'opération, on apprend vite que les a priori sont trompeurs. Donc, d'un côté, les militaires ont besoin de que leur valeur soit reconnue. Et à côté de ça, il y a quand même une faiblesse propre à chacun, une fragilité.
Oui, alors, j'avais entendu cette phrase. Et je crois qu'elle est de François Lecointre, notre ancien chef d'état-major des armées, qui avait dit que quand il est arrivé à Sarajevo, quand il a pris la relève avec son unité, on lui avait dit « Note tout les 10 premiers jours, parce que après, nous, toutes les anomalies, toutes les bizarreries que tu vois, parce qu'après, tu ne les vois plus. » Et c'est vrai que dans une ambiance d'OPEX, on est tellement pris
par l'activité,
la surprise, par l'aventure, que à la fin, on ne voit plus des choses qui sont parfois triviales. Et les a priori sont trompeurs parce que en opération, très très vite, vous voyez l'essence spirituelle de la personne. Et j'allais dire, c'est là que le padre aussi voit les choses. C'est-à-dire que, j'allais dire, nos ressources spirituelles sont quasiment... Alors, le terme qui vient à l'esprit, c'est mise à nu. C'est peut-être pas le bon terme. Mais en tous les cas, elles sont immédiatement sollicitées parce qu'on en a besoin pour pouvoir tenir, pour pouvoir réfléchir, parce qu'on voit de l'injustice, parce qu'on voit de la souffrance, parce qu'on voit de la mort, parce qu'on voit, ce que l'horreur de la guerre peut produire sur des populations civiles, des enfants, des femmes, des vieillards, puis sur nos propres soldats. Et quelque part, chaque fois, il faut mobiliser ces ressources spirituelles pour dire, on reste là, notre présence a une raison d'être, on doit répondre à quelque chose. Et le padre, je pense, répond par son ministère et les sacrements qu'il doit administrer ou les gestes qu'il doit réaliser, et le médecin par sa présence et les soins qu'il distribue. Mmh. Mais on a vraiment immédiatement besoin de mobiliser nos propres ressources spirituelles pour faire face au quotidien et à l'épreuve.
Vous voulez réagir, Padre François Lamarque, sur ce ressourcement spirituel ?
Alors, effectivement, c'est vrai que quand on est d'abord en opération, au bout de 4 mois, 6 mois, eh bien, les masques tombent d'une certaine manière. On vit ensemble. Je parlais de manger. Effectivement, on se retrouve à manger, ou parfois le soir après, on se retrouve pour boire un verre, ce qu'on appelle la popote, pour un peu refaire la journée. C'est aussi ça très bien. Et le moni est là. Justement, on parle un petit peu à bâton rompu. On se lave aussi. On se retrouve tous au bloc sanitaire. Là aussi, ça fait partie des petites choses qu'il ne faut pas lâcher, hein, le manger, le laver. Et puis, à la chapelle, il y a ce lieu un peu spirituel, oui, c'est pas le lieu spirituel, c'est le lieu où les gens peuvent se retrouver, et qui est souvent central, parce qu'en opération, il y a aussi beaucoup d'attentes. Et certains, d'ailleurs, font une démarche plus spirituelle, d'une certaine manière, quand ils sont en opération extérieure, que quand ils sont en France, parce que, d'une certaine manière, il y a du temps, et puis la chapelle est en face de leur tente. Et on trouve qu'il y a, souvent beaucoup plus de ressources spirituelles que dans nos régiments. Et puis, il y a des demandes aussi de sacrements.
Voilà, donc, et peut-être qu'aussi parce qu'il y a cette vulnérabilité, cette confrontation à la difficulté et à la mort dont on parlera dans la deuxième partie.
À la fois, c'est ça, la mort qui est proche, hein, sur un tas d'opérations. Et puis aussi, parfois des mauvaises nouvelles ou des choses difficiles qui sont vécues aussi en France.
Ah oui, avec la famille qui est restée.
Il y a aussi un autre tas d'opérations qui est la famille, les amis, notre premier cercle, qui, d'une certaine manière, on ne vit plus avec pendant 4 mois ou 6 mois, mais qui est quand même présent et qui peut aussi peser sur l'âme.
Je vous propose de marquer une pause musicale et de nous retrouver ensuite pour aborder l'inévitable question de la mort et puis la force du collectif dans ces régiments. Nous écoutons L'Arme d'Ivoire interprétée par les Padrés.
Loin vers la mer, je porte mon regard. Où est mon père quand est mort tout espoir? Il est parti loin d'ici un matin. Je pense à lui, mais jamais ne revient. Donne son âme. Lève les yeux, prends la main de ta mère, raconte un peu cette histoire à ton frère. Beaucoup de larmes, beaucoup de sang, ôte l'espoir, peuple d'ivoire, garde.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Comment l'aumônier catholique et le médecin prennent-ils soin des âmes, des esprits et des corps des militaires? C'est la question posée à François, au padré François Lamarque, aumônier de la 11e brigade parachutiste, et Patrick Clairvoy, médecin psychiatre à Toulon et anciennement au service de santé des armées. Je voudrais que nous parlions de cette grave question de la mort, notamment sur ces théâtres d'opérations extérieures. La mort d'un militaire en opération marque inévitablement ses frères d'armes. Comment accompagner Accompagnez-vous chacun selon vos spécificités, ce choc, Padré?
Eh bien, alors nous, il y a la savoir d'abord la confession du soldat qui est mort, parce qu'effectivement, il n'y aura pas le même accompagnement. On demandera nous-mêmes peut-être un autre aumônier. Et donc, il y a un aumônier israélite, ça peut être un aumônier musulman, un aumônier protestant et l'aumônier catholique. Voilà, en fonction de la confession, si elle est connue, oui. Eh bien d'accompagner en fonction du rite. Eh bien après, pour le cas de l'aumônier catholique, il y a bien évidemment des rites, on va dire des rites funéraires. D'abord, on rencontre nos chefs. Hein, il y a tout un protocole qui est mis en place. Et ensuite, on propose un temps spirituel. Une chapelle ardente où le corps repose, ou pas. Mais en tout cas, une proposition pour les soldats de venir se recueillir.
Et ces rites, en quoi changent-ils des rites qui sont habituellement vécus dans des funérailles classiques?
Il y a aussi l'esprit de corps ou de fraternité d'armes qui est très présente parce que, voilà, effectivement, un décès en opération, ça touche profondément les cœurs, les âmes. Et d'une certaine manière, même face à la mort, enfin déjà, on est tous égaux. Même, je dirais, la foi du croyant note pas ni l'angoisse de la mort, ni la douleur. Ni la douleur. Et puis, c'est pas un gris-gris qui évite les balles. Hein, voilà, on peut en prendre une, même si on a une foi profonde, on a une croix sous sa veste ou sous son gilet pare-balles. Eh bien, on peut être aussi blessé, bien évidemment. Donc, il y a une certaine égalité. Et en même temps, c'est un grand désarroi. Et la présence de l'aumônier, par des paroles que j'ai pu avoir, de réconfortant, de bienveillance, d'accompagnement. D'ailleurs, de qui que nous soyons, la mort, elle nous rend vraiment plus frères quand le sang est versé. La fraternité, elle est vraiment vécue de manière d'être très... dans une grande simplicité, dans un grand dépouillement.
Mmh. Docteur Patrick Clairvoy, sur cette question de la mort et sur ses répercussions sur le corps des militaires.
Oui, alors il y a des phénomènes déjà de groupe quand il y a des décès. Alors pour le père Lamarque, j'étais à Tagab quand il y a eu l'attentat de Joy Bar il y a 13 ans maintenant. Je pense qu'on en parle encore dans votre unité de cet épisode. C'est un traumatisme pour le groupe. Il y a l'absence, et je dois dire que j'ai observé, j'ai malheureusement eu à être présent dans différentes circonstances où il y avait eu des morts, et je dois dire que l'initiative du padré d'immédiatement dresser une chapelle ardente, c'est pas difficile, hein, c'est vous prenez une table, vous la couvrez d'un drap, et après vous mettez les symboles religieux que vous avez, enfin le padré peut décrire ça beaucoup mieux que moi, mais dès qu'il y a une chapelle ardente, dans le groupe, sur le site, sur la base où sont positionnées les forces françaises qui viennent de subir un ou plusieurs morts, Dès qu'il y a une chapelle ardente, il y a quelque chose qui s'apaise dans le groupe. Voilà. Et on voit, il y a un lieu de silence, il y a un lieu de recueillement. Et j'ai toujours été étonné, et comme le disait le padre, des gens qui ne sont pas très pratiquants des offices religieux, etc., en métropole, tout d'un coup, entrent dans les rituels et se posent, prient, pensent, ont des gestes vis-à-vis du défunt, vis-à-vis des bougies qui sont là. Et la chapelle ardente, alors je dis bien chapelle ardente religieuse, hein, il y a une croix, il y a des symboles de la foi qui sont là. Mais en tous les cas, tout de suite, ça va apaiser quelque chose. Et dans le reste de l'unité, l'activité peut reprendre normalement, puisqu'on sait maintenant qu'il y a un lieu dédié à la mémoire du défunt et autour du défunt. Et puis on travaille énormément parce qu'on est très sollicité. Enfin là, le médecin va voir les différentes personnes qui ont pu être impliquées dans l'action qui a occasionné la mort d'un ou de plusieurs camarades, les équipes médicales qui ont fait le sauvetage des blessés ou qui ont tenté de ranimer certains d'entre eux et qui ont pu être confrontés à l'échec de cette réanimation quand un blessé est décédé des suites de ses blessures. Et là, on travaille énormément et sur plusieurs jours.
Et qu'est-ce que vous apportez concrètement comme accompagnement en tant que médecin psychiatre ?
Déjà d'écouter, parce que les personnes mettent en récit ce qu'elles ont vécu dans leur esprit, ça réorganise le chaos auquel ils ont été confrontés. La mort, c'est le pire du chaos. La mort, c'est un trou. On ne comprend plus rien. Le monde se défait, se réorganise différemment. Enfin, c'est une épreuve terrible. Et quelque part, par la mise en mots de ce qui se passe, de ce que l'on vit, à la fois des mots sur le récit de ce qui s'est passé et en même temps des mots pour dire voilà la situation telle qu'elle est maintenant, nous après, nous pouvons mettre nos mots, et je dis nos mots, les miens et ceux du pasteur, pour qu'on puisse reparler du monde tel qu'il est maintenant, se réorganisant autour de ce défunt et des rituels qui vont être faits autour de ce défunt.
Mmh. Alors, il peut y
le
avoir...
psychiatre, par exemple.
Oui, oui. Je vous en prie.
Oui, le psychiatre, par exemple, est présent dans... Enfin, moi, j'étais présent dans les différents rituels religieux autour du défunt parce que j'estimais que la présence médicale était aussi nécessaire à ce moment religieux.
D'accord. Alors, il y a pourtant des morts glorieuses et puis d'autres qui sont absurdes, hein, des morts par accident. Et comment l'un et l'autre, vous pouvez donner sens à ces dernières ? Ce n'est pas la même réalité quand même. Padre ?
Alors, la mort est toujours douloureuse. Et d'abord, comme disait Patrick, il y a tout ce ressenti, même la mort, on dirait la mort un peu, on va dire les morts bêtes. Parfois ça arrive, même si c'est toujours douloureux, mais ça engendre toujours de la colère. Souvent c'est la colère, et donc effectivement, comme disait Patrick, le fait qu'on puisse parler au médecin, à l'aumônier, au padré, de sa colère, de son incompréhension, de son abattement. Et effectivement, moi, c'est ce que je sais faire, hein, ce sont des paroles d'espérance, d'encouragement. On parlait aussi du paradis, du service. Il est tombé pour la patrie, pour une mort en opération. Il est tombé au service sur le champ d'honneur. Et bien évidemment, on a aussi des choses douloureuses quand dans nos régiments, il y a ça peut être des accidents de voiture, des accidents aussi en entraînement. Alors là, ça reste quand même dans le cadre militaire, mais il faut aussi apporter une parole d'espérance. Parce qu'effectivement, même s'il y a des morts, effectivement, où il y aura des honneurs militaires, et d'autre part, en fonction effectivement de la manière dont s'est passé le décès. Et encore une fois, l'aumônier doit être là pour apporter cette parole de réconfort, de bienveillance, d'espérance.
Oui, et puis il faut quand même aussi préserver la mémoire du défunt, même s'il est mort dans des circonstances qui ne sont pas glorieuses, pas héroïques.
Oui, parce que ça reste, d'abord, ça reste une personne, un frère d'armes. Et donc, on fera même, on fera le maximum pour accompagner sa famille. Puis c'est la famille en deuil, parce que celui qui est parti, il est parti. Mais c'est tous ceux qui sont là et qui ont aussi besoin, qui sont aussi vraiment dans un grand désarroi et qui ont besoin de simplement d'avoir des personnes qui leur facilitent, qui les aident, qui les prennent en compte, en leur disant, qui les consolent.
Patrick Leroy, vous écrivez dans votre ouvrage Frère d'armes, l'un des plus grands malheurs de l'existence est d'avoir involontairement tué un frère d'armes, que ce fût par maladresse ou par bêtise. Comment sortir de cette culpabilité?
Oh là,
grande question.
C'est une épreuve terrible. Et ce que j'ai vu à plusieurs reprises, j'ai vu deux situations différentes. Celle où l'équipe où le groupe se resserrait autour de la personne auteur du geste fratricide, et l'autre circonstance est celle où on le rejetait. Mais sur mort glorieuse, quand on est mort, on est mort. Et moi, ma réflexion, c'est qu'on ne va pas calculer s'il est mort plus ou moins glorieusement. Et sur nos monuments, que la personne soit morte dans le combat avec l'ennemi, qu'elle soit morte d'un accident ou à l'entraînement, ou même qu'elle soit morte par suicide, elle est là, elle est morte, et l'unité a perdu un des siens, un de ses frères est mort, et on n'a plus à mentionner qu'elle soit plus ou moins glorieuse ou pas.
L'hommage lui est rendu quoi qu'il arrive.
Voilà, toute personne défunte, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle a trouvé la mort, elle rentre dans un cadre général où on va lui rendre hommage et on ne calcule plus qui a droit à quoi. Voilà. Même si c'est assez difficile. Et après, c'est notre travail. C'est le travail du padre et c'est le travail du médecin, du psychiatre, d'arriver à comprendre pourquoi cette personne est morte.
C'est pas facile de trouver des réponses parfois.
Mais même au combat, si vous voulez. Quelqu'un qui a été tué pour l'ennemi, on est devant cette absurdité où tout d'un coup, quelqu'un qui était avec vous, un ami, un frère, un camarade, un chef ou un de vos subordonnés, tout d'un coup n'est plus là. Et il y a vraiment une unité et une unité fraternelle autour de ce défunt. Et on n'a plus à émettre de jugement sur les circonstances dans lesquelles il est décédé. Ça m'apparaît très important. Et c'est là aussi où on voit que le padre, dans les rituels qu'il va appliquer, va pas différencier son rituel selon la façon dont est morte la personne. Elle est morte, on a à se réunir, à se recueillir, à déplorer cette disparition, et maintenant à nous soutenir entre nous, frères, pour ceux qui sont les plus blessés. Et je souligne aussi l'importance des padres en métropole, auprès des familles qui ont perdu un des leurs en opération extérieure.
Et oui, c'est ça, parce que la famille reste en métropole et là aussi, c'est difficile d'accompagner chacun. Et le militaire qui est en opération extérieure peut se sentir déchiré entre sa famille qui est restée loin et puis son autre famille qui est la famille militaire.
Oui, et je souligne aussi que de la même manière, le padre en métropole, celui qui est resté ce qu'on appelle la base arrière, a un rôle très très important, à mon sens, en relais du padre qui est projeté, de même manière que les médecins. Mais je vais laisser le padre répondre de cette...
Oui, c'est vrai que ça nous arrivait, j'étais déployé là durant l'été, il y a eu, dans mon régiment, il y a eu un accident de saut. Qui a occasionné la mort. Moi, j'étais pas là. Donc là aussi, c'est toujours perturbant. D'ailleurs, même pour nous, de pas être là. C'est pas qu'on aurait aimé être là, mais c'est notre unité. Et du coup, un aumônier, on a toujours un remplaçant, on va dire, qui est là, qui accepte, de venir sur les unités ou quand on n'est pas là en opération. Donc c'est lui qui a effectivement réagi. Donc lui, effectivement, l'accident s'est passé en France. Sa famille était en France, mais aussi il y avait tous ses camarades. Qui étaient, d'ailleurs c'était les services de santé des armées, qui étaient là, qui ont été très touchés, en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Des gens qui étaient quand même profondément choqués par cet accident de parachute. Et du coup, l'aumônier en base arrière a effectivement vu la famille, a admirablement la chapelle ardente pour le lieu de recueillement dans le régiment. D'ailleurs, à cette occasion-là, certains qui étaient depuis 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, ont découvert qu'il y avait une chapelle. Donc c'était... pour aller veiller leurs frères d'armes. Et puis, moi, de mon côté, j'ai proposé à ceux qui le voulaient une célébration, encore une fois, dans l'intimité, modestement, et qui aussi, de très loin, ils ont été très apaisés, d'avoir un peu vécu aussi, d'une certaine manière, le deuil, avec en étant accompagnés, avec un temps de prière, et en communion avec ceux qui étaient en France.
Et oui, c'est ça. Merci beaucoup à vous deux. Il est malheureusement temps de nous quitter. Merci pour cette belle complémentarité entre le médecin et l'aumônier militaire. Merci Padre François Lamarque, aumônier de la 11e brigade parachutiste. Et merci Docteur Patrick Clairvoyant, médecin psychiatre à Toulon et anciennement au service de santé des armées. Je redonne le titre de votre livre « Frères d'armes, médecin militaire en opération extérieure » aux éditions Odile Jacob. Merci à tous deux.
Merci Patrick, merci Isabelle.